Jacques Lavergne, Cap et Cap, bonjour. Aujourd'hui, Cap et Cap avec
Yannick Josion, ex-international de rugby, entre autres.
Entre autres.
Bonsoir à toutes et à tous.
On va parler de tout ça. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Lorsqu'il s'est agi de booster les entreprises, le gouvernement a décidé d'élaborer une loi, dite loi Pacte. Des consultations ont été lancées avec ce commentaire de Bruno Le Maire, et je le cite, « L'objectif, c'est que les salariés soient davantage associés à la marche de l'entreprise. » Autrement dit, apporter la démocratie dans l'entreprise. Une révolution dans un secteur où la seule raison d'être d'une entreprise, si l'on en croit notre code civil dans ses articles 1832 et 33, c'est de se partager les bénéfices uniquement dans l'intérêt des associés. Il est vrai que dans une époque où la pression sociale s'accroît dans un sens de plus en plus de respect des salariés et de l'éthique, le code civil commence à manquer de souffle. Dès lors, si le président de la République va au bout de sa démarche, force lui sera d'arbitrer cette question fondamentale, de savoir si l'entreprise doit représenter les intérêts de ses actionnaires ou être pensée, compte tenu du pouvoir qu'elle exerce, sur la vie des gens et sur la planète, et donc en fonction de la société dans son ensemble. Ce qui, dit comme cela, paraît être une révolution profonde de la conception du rôle de l'entreprise, ne choque pas certains grands patrons, tels par exemple Emmanuel Faber, le PDG de Danone, ou celui de Veolia, Antoine Frérot, lequel déclare tout tranquillement « Ce serait un symbole fort de rappeler tout ce qu'une entreprise apporte et le fait qu'elle ne sert pas seulement les actionnaires et les patrons ». Vaste débat dont on peut se demander s'il accouchera d'une souris ou d'une vraie révolution de cette question qui impacte notre société tout entière et son quotidien. Un des thèmes principaux de la consultation lancée par le ministre de l'Économie était celui-ci. Faire de l'intéressement et de la participation une réalité pour tous les salariés dans une logique de partage de valeurs. Mais très curieusement, la gouvernance des entreprises ne joue qu'un rôle très secondaire dans la consultation qui est censée préparer la loi Pacte. La représentation des salariés, loin d'être considérée comme un atout pour les entreprises, est toujours vue comme un obstacle à leur bonne marche. Nous sommes loin, très loin même du fameux modèle allemand. Une culture juridique allemande qui conçoit la société comme une association de communautés organisées, Gemeinschaften, coordonnée par l'État. Même la constitution de Weimar de 1919, à laquelle les Allemands sont revenus après la parenthèse du nazisme, prévoit dans son article 165 une collaboration sur un pied d'égalité des salariés et des employeurs au sein des différentes communautés professionnelles. Et cette codétermination marche. Alors il va falloir se poser les bonnes questions, et celles-ci ne manquent pas. Comme par exemple, par quel mystère acceptons-nous d'être commandés dans les entreprises d'une manière que nous réprouvons par ailleurs ? Dans quelle mesure peut-on parler de démocratie au sujet d'organisations qui ne fonctionnent pas comme des États ? Ou bien la démocratie est-elle conciliable avec le principe managérial d'efficacité et avec l'impératif actionnarial de profit ? Le débat est ouvert et nous y reviendrons certainement, n'en doutez pas. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Esprit Occitanie un homme qui a pris une vie bien remplie de sportifs de haut niveau, vient de commencer une deuxième carrière dans un monde qui est radicalement différent, c'est celui du ginseng. Il va nous expliquer comment il a vécu dans ces deux univers si différents et comment on passe de l'un à l'autre. Bonjour Yannick Josion.
Bonsoir.
Alors merci d'être avec nous sur Esprit Occitanie. Donc, vous êtes connu, même très connu, Yannick Josion, pas trop pour le ginseng, on viendra tout à l'heure, mais surtout pour le rugby. Vous avez commencé à quel âge ? Très jeune, je crois.
Oui, j'ai commencé le rugby à l'école de rugby de Groyer à l'âge de 7 ans. Et donc j'ai fait mes gammes là-bas, j'ai baigné dans un excellent état d'esprit, plutôt amateur. Et puis j'ai connu le professionnalisme un petit peu à Groyer, puis surtout après à Colomiers pendant 2 ans et pendant 11 ans au Stade Toulousain, jusqu'en 2013.
Alors pourquoi le choix du rugby ? Pourquoi avoir choisi ce sport ? Bon, c'est vrai que dans la région, ce n'est pas très original, on va dire, mais vous auriez pu en choisir plein d'autres.
C'est surtout au départ, je pense, par passion de la part de mon père, notamment, qui a toujours adoré ce sport, qui a pas forcément joué au rugby, mais qui a suivi l'équipe de Groyer, qui évoluait en première division dans les années 80.
Et il vous a amené au stade ?
Oui, j'ai été au stade assez tôt, à l'âge de 4 ans, 5 ans.
Ah oui, quand stade, même,
donc,
oui.
Donc voilà, petit à petit, la passion m'a pris aussi. Et après, le professionnalisme a été une autre étape. Bien évidemment, ça a été plus la quête, on va dire, du challenge, de la compétition, de la victoire. Mais avant ça, j'ai connu tout ce que génère un groupe, la cohésion d'un groupe. Bon, voilà,
quoi. Quelles qualités il faut pour jouer au rugby ? Il faut des qualités spécifiques ? Il faut, je sais pas, il faut un physique Bon, vous avez déjà un physique. Hein,
oui, bien sûr, il faut... Mais... Bon, l'avantage, c'est que... Il faut, disons que tout joueur, tout homme, on va dire, peut jouer au rugby. C'est vrai qu'on est quand même plutôt à force de faire un peu de course, de muscu et autres, un peu plus musclé que d'autres, mais on a besoin des petits costauds, des grands rapides, des stratèges pour les postes de milieu d'ouverture, de milieu mêlée. Donc je dirais que c'est ouvert un peu à tout le monde, à tout type de gabarit. Et d'ailleurs, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec une personne, il me disait, au départ, ça représentait aussi des classes sociales différentes. C'est vrai que les avants étaient complètement différents des arrières ou autres, qui étaient plus la bourgeoisie. Et j'ai dit, c'est vrai que oui, on retrouve un peu cet esprit-là au rugby, et ce mélange de caractères est intéressant. Hein.
Et vous occupiez quel poste ?
Moi, j'étais au centre. Enfin, en tant que professionnel, j'ai évolué au centre. Quasiment toute ma carrière.
Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est au centre ?
Au centre.
Au centre,
on cherche l'équilibre, on va dire, au centre.
Oui.
Non, mais le poste centre est là pour suppléer le poste de demi-ouverture et pour orienter le jeu et organiser un peu la relation entre trois quarts et avant. Quoi. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il faut avoir une certaine vista, qu'il faut comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain et que donc il faut se servir du cerveau aussi.
C'est ça, ce mélange, c'est pas évident, je dirais, que c'est avec le cerveau sur un terrain, parce qu'on est dans le feu de l'action, on est pris par la vitesse, la rapidité du jeu, et comme on dit, il faut savoir lever la tête pour voir, anticiper et essayer de trouver les brèches.
C'est un métier qui vient au fur et à mesure ou pas ?
Oui,
on s'améliore.
Comme tout, on s'améliore, puis quand on est... C'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire est-ce que j'arriverai à franchir ce niveau-là ? Est-ce que j'arriverai à jouer en deuxième division, après en première division ? Et finalement, quand on est dans le bain, quand on est dans le moule, je dirais, celui qui a quelque part les capacités à lui ou qui arrive à aller chercher ses capacités, parce qu'on les a tous, mais il faut aller les chercher, on ne se rend pas compte, en fait. Et c'est quand on arrête après qu'on se dit c'est vrai que c'est un sport quand même où il y a beaucoup de contacts, où il faut être bien préparé.
Ah, vous n'êtes pas trop marqué, je ne sais pas si vous avez dû prendre des tampons comme tout le monde, mais ça va, quoi, quand on vous voit. On en voit certains avec les oreilles bouffées, les écrasées. vous me paraissez parfaitement normal, si je puis dire.
Disons que les postes d'arrière sont quand même moins un sujet au contact, bien que le poste de centre en fait partie. Mais après, il y a des façons de faire. Moi, je faisais partie d'essayer d'éviter les autres, passer dans les espaces plutôt que d'aller tout droit. Mais c'est un sport qui est très enrichissant au niveau des valeurs que l'on doit avoir. Et ce n'est pas donné à tout le monde que de rentrer en contact avec quelqu'un d'autre. Donc déjà, par rapport à ça, ça demande pas mal de préparation.
J'ai lu que quelque part qu'on vous appelait le platane. Alors, ça m'a un peu surpris. Ça fait référence à quoi ? Parce que vous étiez tellement solide que... Déracinable, c'est bien, ça
Oui, c'est la...
Insensible au plaquage.
Un surnom donné par les médias par rapport au fait que j'ai arrivé à tenir bien debout. Aussi par rapport au fait que j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune. Donc je pense que ça m'a aidé aussi à tenir bien sur mes pieds. Et puis voilà, donc j'avais un jeu qui était censé effectivement essayer de regrouper un maximum de joueurs sur le terrain pour libérer les espaces plutôt sur les extérieurs. Donc ça fait mon style de jeu.
Qui c'est qui fait la stratégie sur un terrain ? Est-ce qu'avant de rentrer sur le terrain, en fonction de l'autre équipe, on a élaboré des scénarios ? Ou alors c'est en fonction, c'est un peu au feeling de ce qui va se passer. Comment ça marche ?
Et disons que c'est une bonne question parce qu'on a vu, j'ai vu l'évolution dans le rugby au niveau de la préparation des matchs. Puisqu'au début des années 2000, bon, bien sûr, on regardait un peu le jeu d'adversaire, les points forts, les points faibles, mais il y avait pas de, il y avait des schémas préétablis, mais on s'adaptait beaucoup quand même sur le terrain, à ce qu'on faisait sur le terrain, quoi. Il y avait beaucoup de complémentarité. Là, maintenant, c'est tellement, les défenses sont tellement serrées et autres qu'il y a, il y a vraiment des schémas de jeu préétablis, 2, 3, 4 temps de jeu préparés à l'avance.
Ça veut dire qu'on a, on a simulé un certain nombre de phases de jeu, voilà. D'attaques, de... Voilà. Je ne sais pas de quoi.
Ouais, c'est des gammes que l'on répète, ouais. En fait à l'entraînement et qu'on met en place le jour du match.
Ça veut dire qu'on a des automatismes et que voilà. Si la situation se présente, aussitôt, plaf, tout le monde réagit.
Voilà, alors dans l'idéal, voilà, c'est de partir sur un lancement de jeu travaillé pour amener de la vitesse et déstabiliser la, ouais. La défense. Si toutefois ben, la défense ne se présente pas comme c'était prévu à la vidéo, comme on a travaillé, on est censé pouvoir s'adapter et changer de stratégie, mais. Ça, c'est pas évident.
Qui va décider le changement de stratégie ? Parce que c'est pas comme au foot. Au foot, on voit l'entraîneur en train de hurler, pour pas dire gueuler, sur le bord, là, sur son banc, tandis qu'au rugby, ils sont dans les gradins.
Oui, d'accord. Non, mais après, il y en a aussi un bord de touche. Mais c'est à la fois donc, des consignes des coachs, des entraîneurs, qui regardent les vidéos, etc. Et puis ça peut venir aussi de la part des joueurs qui ressentent au fil du match sur le terrain ce qu'il faut faire. Donc il y a un échange entre les deux. Mais la semaine, c'est souvent quand même un travail qui est apporté par les entraîneurs. Quoi.
Et le groupe, c'est vraiment un groupe soudé ?
Ah, ben, sur le terrain, ça demande beaucoup de solidarité. Après, je dirais qu'en dehors du terrain, il n'y a pas forcément d'affinité poussée des fois entre les joueurs. Mais ça dépend le groupe et l'efficacité. Mais sur le terrain, oui, ça demande beaucoup de cohésion. Et c'est un peu la magie de ce sport. C'est qu'on a besoin de besogneux pour faire briller les plus rapides. Voilà, et on dit les stars, entre guillemets, qui marquent les essais. Mais il faut des besogneux parce que sans ça... Bon, voilà.
Comment ils le vivent, ceux que vous appelez les besogneux ? Ça va être dur quand même de jamais être cité, parce qu'on dit toujours un essai a été marqué par Yannick Jozion, puis les autres derrière qui ont porté le ballon, parce qu'il faut traverser le terrain, on n'en parle jamais.
C'est ça.
Ça doit être frustrant pour eux.
S'ils sont là, c'est qu'ils veulent bien avoir cette place quelque part. mais après, il y a une reconnaissance quand même à l'intérieur du groupe, au sein du groupe. Et on met souvent en avant l'efficacité quand même des 15 joueurs. Parce qu'on sait très bien que ça passe forcément par là, par ceux qui poussent, qui arrivent à bien préparer le ballon pour que les espaces puissent être exploités après par la suite. Donc, mais c'est vrai que c'est complètement différent la tâche d'un avant et la tâche d'un arrière. Quoi. Ça n'a rien à voir. Et des fois, on a l'impression que ce qu'ils jouent devant ne font presque pas du rugby. Parce qu'il y a, certes, des fois, ils vont toucher le ballon, mais pas forcément souvent dans une partie. Quoi.
Non, pour eux, c'est le nettoyage devant.
C'est ça, c'est un travail de sape, comme on dit, un nettoyage, du plaquage, et arriver à éjecter les ballons et les rendre le plus propre possible. Quoi.
Quand on regarde les rugbymen aujourd'hui, et quand on est un peu ancien, ce qui est mon cas, quand on les a vus autrefois, on a l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus affûté physiquement, même beaucoup plus musclé, quoi. Vous êtes beaucoup plus costaud. Hein.
Oui, bien sûr. Il y a une... Bon, forcément, ça a changé avec le passage au professionnalisme. Mais j'ai en tête que j'allais voir jouer l'équipe de Grouillé dans les années 80, voire début des années 90, des piliers avec le ventre bien marqué, bien bedonnant.
C'était les abdos Cronenbourg, c'est ça ?
Oui, donc c'était des piliers qui étaient là pour stabiliser la mêlée et puis pas forcément courir énormément après sur le terrain. Bon, aujourd'hui, les piliers, ils se déplacent comme les trois quarts, quoi. C'est impressionnant. Quoi. Donc il y a eu une évolution et c'est vrai que ça devient au niveau des gabarits. Ça devient de plus en plus homogène. Quoi. Bon, il reste la typicité du poste, forcément, mais c'est quand même tous des joueurs athlétiques. Quoi.
Et quand on arrête, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le corps le sent qu'on a arrêté ? Est-ce qu'on grossit ? Parce que là, vous n'avez plus la même intensité physique d'entraînement. Et si on conserve les mêmes habitudes alimentaires, j'imagine que ça doit être dramatique.
Ça change complètement. Mais on passe de quasiment 2 entraînements par jour à des fois rien, rester sur la chaise comme ça, au bureau, devant l'ordinateur ou autre, ça dépend des activités de chacun. Et donc personnellement, j'essaie de faire au moins une activité par semaine, mais bon voilà, ça ne va pas bien plus loin que ça. Donc c'est un changement physiologique qui est important. Donc c'est vrai que des fois, ça se retrouve sur une prise de masse. Des fois, c'est aussi dur psychologiquement d'arrêter. Parce qu'il faut arriver à retrouver la même motivation à côté, la même que celle qu'on avait sur le terrain. Et c'est ça qui n'est pas évident. Parce qu'on connaît des moments intenses, je sais pas, des poussées d'adrénaline qui est liée au sport. Donc, le retrouver à côté, ce n'est pas possible. Donc, au départ, c'est vrai qu'il y a un manque. Et c'est sûr que ce n'est pas évident de passer comme ça d'une activité si particulière à quelque chose de plus classique. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit souvent des anciens joueurs essayer de se mettre à leur compte. Enfin, quand je dis se mettre à leur compte, c'est avoir leur propre activité. Pas mal, ils ont des restaurants ou autres. Donc, quelques-uns dans l'assurance.
Oui, on en connaît un, là en face, on y viendra tout à l'heure.
Mais voilà, ça s'explique parce que sur le terrain, on prend beaucoup d'initiatives, il y a une espèce de créativité, donc ça se retrouve après. Quoi. On a du mal, je pense, après à rentrer dans le rang classique de salarié pur et dur qui obéit à quelque chose. Voilà, donc on a envie d'avoir un peu cette même motivation, cette même prise d'initiative qu'on avait sur le terrain. Quoi.
À quel âge on s'arrête? On peut jouer vieux ou pas? Ou il y a maintenant, c'est de moins en moins vieux? Parce que c'est de plus en plus exigeant, ce qu'on disait tout à l'heure.
Il y a des joueurs qui arrivent à jouer jusqu'à 36, 37 ans. Aurélien Rougerie qui va s'arrêter cette année, je ne sais pas s'il doit avoir au moins 37 ans. Mais après, c'est vrai que c'est rare, oui. On va dire qu'entre 33 et 37 ans, c'est à peu près la moyenne. Parce que c'est quand même dur physiquement. Très sollicitant, puis forcément après on a besoin de plus récupérer, de mieux se préparer, et on est moins régulier en fin de carrière. Et il y a aussi le décalage d'âge avec ceux qui arrivent, les tout jeunes et qui ont 20 ans. Quoi.
Ils donc, vous le font sentir les jeunes, qu'ils sont jeunes et que...
Ah ben c'est sûr que, ouais, ils le font sentir, ne serait-ce que par leur envie, leur enthousiasme, mais leur potentiel aussi, donc il y a forcément un écart qui se crée, et puis c'est pas aussi les mêmes façons d'être autour du rugby. Quoi.
Ça évolue si vite que ça, l'esprit?
Ouais, ça a évolué beaucoup avec le professionnalisme. Et après, c'est l'évolution de la société aussi. C'est pas que dans le rugby, je dirais. Donc,
le professionnalisme, qu'est-ce que ça a amené? L'argent?
Ça a amené, oui, de l'argent. Donc, du coup, de l'argent parce que du monde dans les stades. Un sport quand même beaucoup plus spectaculaire. Qui passe beaucoup mieux à la télé et forcément derrière de l'argent, des partenaires, mais aussi un challenge sportif plus dur à relever et un engouement plus fort de la part des joueurs. Quoi.
On nous parle toujours des fameuses valeurs du rugby, on met toujours ça dans. Est-ce que ces valeurs qui ont existé, mais est-ce qu'elles existent toujours et justement, est-ce que ce professionnalisme les a pas un peu fait passer au second plan?
Alors sur le terrain, les valeurs resteront toujours. C'est le jeu qui fait ça quelque part. C'est le fait d'arriver à, comme je disais, à rentrer en contact avec quelqu'un, d'arriver à plaquer. C'est une dimension mentale particulière qu'il faut avoir pour ça. Il y a des notions de vitesse, de cohésion, d'organisation. Enfin, tout ça fait que c'est très particulier. Et après en dehors du terrain, je dirais, alors ça forcément ça a évolué parce que c'est pas du tout le même contexte. Maintenant, c'est beaucoup plus médiatisé. Je dis, mais moi, quand je t'en parle des valeurs, je m'attache à ce qui se passe sur le terrain, quoi. Après, tout ce qui est un peu exagéré à l'extérieur, je dirais, bon, t'as mieux parce qu'il y en a qui en profitent, les entreprises, etc. On en fait tout un pataquès, mais finalement, c'est ce qui est intéressant, c'est sur le terrain, ce qui fait qu'on est survolté des fois quand on regarde un match, quand on est excité, qu'on a envie de supporter une équipe. Voilà. Après. Ce qu'il y a autour, bon, c'est un peu du flan-flan des fois, mais on en fait un peu trop, mais les valeurs resteront. Voilà.
Le public n'est pas le même qu'au foot, parce qu'au foot, on voit quand même des choses, on voit un public, ça fait un peu peur parfois.
Oui, ça honnêtement, j'espère que ça perdurera, parce que c'est agréable que d'aller au stade en famille, échanger des fois avec les supporters adverses. Alors on le fait beaucoup plus quand c'est un Coupe d'Europe avec des Écossais, des Irlandais ou autres, parce qu'il y a moins, je dirais, la notion de derby, de concurrence. Quand c'est avec les voisins, c'est moins évident. Mais il y a quand même ce mélange, en fait, entre différentes villes, différentes personnes, qui rend le côté intéressant. Quoi.
Dans les gradins, quand on voit un stade, quand on va dans un stade de rugby, le public est mélangé. Bon, on ne regarde pas s'il est pour, s'il est contre, s'il est pour les bleus, s'il est pour les rouges. Quand on va au foot, chacun est avec derrière ses grillages et on s'arrange bien pour les séparer. Donc ça veut dire quand même que le public n'est pas tout à fait de la même nature.
Non, c'est différent. Alors je pense que c'est lié aussi à quand on va voir un match comme ça où il y a beaucoup de monde, il y a une excitation, une envie de se dépenser. Et au rugby, c'est vrai que les joueurs se donnent vraiment à fond. Enfin, on voit qu'ils se livrent. Au foot aussi, mais comme il n'y a pas le contact, peut-être qu'il y a moins cette dépense qu'auraient envie de voir peut-être les supporters, et ils le font maladroitement à côté.
Je pensais peux, que oui, faute de voir les joueurs se défouler, voilà. Ils se défoulent eux-mêmes. Je ne sais pas s'il n'y a que ça quand même.
Ça peut être effectivement une explication, mais après, il y a d'autres types de populations qui entourent les matchs, peut-être au foot, et qui sont plus compliqués à gérer, ça c'est clair. Voilà.
Donc, une équipe, ce n'est pas que 15 personnes, il y a tout un staff. On part toujours, il y a toujours le staff à côté. Alors le staff, c'est quoi? Ils sont combien? C'est
composé de qui? Dans les staffs, il commence à y avoir quand même maintenant beaucoup de monde, parce que déjà un groupe, une équipe, c'est à peu près 35-40 joueurs professionnels. Maintenant, bien, plus 40 que 30. Donc il y a des joueurs qui sont prêts à évoluer pour le week-end à venir. Il y en a qui sont en phase de récupération, d'autres qui sont blessés. Donc c'est sûr qu'il faut tout un tas de personnes pour encadrer les joueurs. Au Stade Toulousain, par exemple, il y a un manager, donc Hugo Mola, deux entraîneurs, une autre personne s'occupant de la défense, ensuite trois ou quatre préparateurs physiques, des stagiaires, et voilà, donc des personnes qui font la vidéo. Et puis les staffs auprès des équipes anglaises sont beaucoup plus nombreux qu'en France, quoi. Ils ont beaucoup plus de préparateurs physiques, parce qu'ils vont plus dans le détail par rapport à ce qu'ils peuvent faire avec les joueurs. Donc oui, ça représente du monde. Ouais.
On fait une première pause musicale, on reviendra sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on écoute?
Qu'est-ce qu'on écoute? Alors,
qu'est-ce que vous...
J'ai proposé d'écouter une chanson de Scorpion que tout le monde connaît, qui est The Wind of Change, tout simplement pour la beauté de cette musique.
Eh bien, on y va.
We'll be right back. Then we ring the freedom bell for peace of mind. Play your balalaika, sing what my guitar wants to
Voilà, nous retrouvons notre invité, Yannick Josion, sur Esprit Occitanie, qui avait choisi ce morceau musical. On était en train, bien évidemment, de parler de la première partie de sa vie qui était entièrement consacrée au rugby. Alors, on a parlé un peu d'argent, il y en a un peu plus qu'il n'y en avait. On parle aussi beaucoup de quelque chose, surtout quand on évoque le cyclisme. Mais est-ce que le dopage, ça existe dans le rugby ?
Le dopage, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, parce qu'il y a déjà eu des cas de dopage. Après, il n'y a pas une organisation, je dirais, collective, et heureusement, le dopage il existe, mais c'est des volontés personnelles de certains joueurs. Mais bon, j'en ai connu, moi, peut-être un ou deux cas. Mais après voilà, bon, ça reste là. Et il y a quand même le fait qu'il y a 15 joueurs sur le terrain. L'un peut compenser les problèmes de l'autre. Donc, on dirait qu'on est moins sujet parce que dans certains sports individuels où on est livré à soi-même. Quoi.
C'est le groupe qui travaille en réalité avec ses forces et ses faiblesses, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, exactement. Bon, après, ceci dit, il y a eu quand même des cas de dopage. Il y a quand même beaucoup de contrôles maintenant organisés tout au long de l'année. Et puis, il faut savoir qu'en équipe de France, après chaque match, il y a des contrôles sur, je crois, 5 ou 6 joueurs tirés au sort. Enfin, il y en a quand même régulièrement, donc c'est difficile de passer à travers tous ces contrôles. Et je pense que les joueurs en sont conscients. Ceci dit, ça peut toujours arriver.
Voilà. Oui, il y a toujours des gens qui essayent de passer, ou de tricher, voilà, ou de compenser peut-être des, voilà, pertes d'acuité physique. Alors, Groyer, Colomiers, le Stade Toulousain, et puis après la consécration, on se retrouve en équipe de France. On y pense quand on débute le rugby, c'est un but d'aller en équipe de France ou...
Alors, moi, ça a été pour moi une référence quand j'étais tout jeune. Hein. Parce que bon, de voir évoluer l'équipe de France, ça me donne toujours envie, après les matchs, d'aller essayer sur le pré tout seul, qui pleuve, qui vente ou qui neige, de m'amuser avec le ballon. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe de France quelque part qui montre l'exemple aux jeunes joueurs. Et après, quand on commence à évoluer, non, ce n'est pas un but. Ça se fait petit à petit parce que bon, moi, j'ai commencé à jouer à Grouilly en équipe 1. Puis on m'a dit, bon, tu devrais essayer d'aller dans un autre club en première division pour tenter l'expérience. Et comme il y avait des passerelles avec Colomiers, entre Grouilly et Colomiers, j'ai tenté, ça s'est bien passé. Et puis voilà, et j'ai intégré l'équipe de France dès la première année rapidement. Donc, mais je dirais que. Alors peut-être que la réflexion maintenant, elle est différente. Mais au départ, moi, ce n'était pas mon objectif de jouer en équipe de France. C'était déjà l'objectif de jouer en équipe 1 de Groyer, qui était pour moi l'équipe référente.
Ah ben, on repousse toujours les limites. Hein. C'est comme, voilà, en montagne. Dès qu'on est à un sommet, on s'aperçoit qu'il y a une autre derrière qui est plus haut. Et comment on l'avait appris que vous étiez appelé en équipe de France ?
Alors, ça se fait par la presse, par voie de presse.
La première fois, on ne vous l'a pas dit, vous l'avez appris en lisant le journal ?
Oui. Bon, après... On entend dire, bon, tu as peut-être des chances de partir en équipe de France. Et après, il y a des communiqués de presse.
Et voilà, alors, ça fait quoi quand on vous a dit la première fois, on s'est dit, ça y est, tu as une équipe de France. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Alors, bon, première sélection, déjà, je n'ai pas pu y aller parce que je m'étais blessé. Et après, donc, c'était pour le tournoi, un match contre l'Italie. Et après, il y avait la tournée de juin qui approchait. Et là effectivement, il y a eu Bernard Laporte qui m'avait appelé avant, enfin, quelques mois avant, en disant bon, mais on compte sur toi pour la tournée de juin. Et quand il a appelé, j'étais encore colocataire avec des étudiants à l'école de Purpan. Et donc, c'est pas moi qui ai décroché, c'est des copains qui ont décroché. Et puis, ils croyaient pas que c'était Bernard Laporte. Bon, ils ont raccroché au nez de suite. Mais là, effectivement, il m'avait averti après le tournoi en disant bon, on essaiera de te prendre pour la tournée de juin. Et voilà, donc, non, mais après, c'est une source de motivation. Et moi, ça m'a vraiment aidé à franchir un palier quand j'ai participé à la Coupe du Monde en 2003 en Australie. Parce que on côtoie les meilleurs, c'est un événement majeur au niveau mondial, le plus gros événement en rugby. Et ça m'a permis vraiment de progresser et puis après d'apporter tous mes acquis au Stade Toulousain. Quoi. Mais c'est sûr que. Après, on est toujours encadré par les plus anciens qui essaient un peu de démystifier le match équipe de France, quoi, de dire finalement c'est comme tous les matchs, sauf que ça va être de plus haut niveau, mais on est tous là pour élever ce niveau. Donc,
quand on rentre sur le terrain, des stades quand même beaucoup plus grands, beaucoup plus conséquents, beaucoup plus pleins, puis un enjeu aussi.
Oui, un enjeu, puis c'est ça, c'est le folklore. Mon premier match, c'était en Afrique du Sud. Donc avec vraiment une ambiance complètement différente, il faut imaginer les tam-tams autour du match, enfin un peu le folklore à l'africaine. Quoi. Et puis beaucoup d'engagement sur le terrain de la part des Sud-Africains qui aiment le jeu dur. Quoi. Donc c'est sûr qu'il faut s'y préparer, mais comme je disais, quand on est dans le moule, quand on est dans le contexte, ça se fait, je dirais, naturellement. Et après, il faut l'expérience des joueurs pour essayer de démystifier tout ça et faire en sorte que les jeunes joueurs puissent être intégrés rapidement. Quoi.
Alors vous avez prononcé un nom tout à l'heure, Bernard Laporte. On parle beaucoup de Bernard Laporte aujourd'hui. Pas toujours en bien d'ailleurs, de moins en moins souvent. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Je dirais que Bernard, il a toujours réussi à réunir du monde autour de lui parce que par rapport à sa passion pour le rugby... Le fait qu'il aime bien les relations humaines, les histoires entre joueurs, et il a su fédérer quand il était entraîneur. Et malgré effectivement tout ce qu'on peut en dire sur Bernard, mais Bernard est toujours là, toujours à la présidence. Donc,
je sais pas. Il paraît que c'est un bon homme d'affaires, surtout.
Oui. Bernard a toujours été dans ses affaires, à côté du rugby. Bon, après, nous, en tant que joueurs, il nous en faisait part, ni plus ni moins, mais. C'est sûr que s'il passe trop outre la loi, forcément, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais je sais qu'il le fait toujours. On est toujours tenté avec lui d'aller dans l'aventure. Et c'est pour ça qu'il a mené ses joueurs à aller plus loin.
C'est un meneur d'hommes.
Voilà, meneur d'hommes dans les affaires. Mais c'est sûr qu'il y a des règles à respecter qui sont peut-être différentes de celles du terrain.
Donc, peut-être c'est pas tellement ce qu'il fait dans ses affaires. Après tout, ça le regarde. Mais peut-être un peu le mélange des deux, quoi. C'est ça qui est gênant. Alors, Toulouse et la région toulousaine s'est un peu dressée contre Laporte lorsqu'il a viré à la hussarde Novest avec des arguments qui, pour le juriste que je suis, me semblent complètement ubuesques. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Vous l'avez bien connu, Novest, si vous entraînez?
Oui, bien sûr. Bon, voilà, concernant Guy, je crois que c'est évident qu'il ne méritait pas une sortie comme ça. Bon, expliquer pourquoi on a besoin de changer d'entraîneur, ça peut être le cas. Et après, bon, je pense qu'il a de quoi se défendre sur ce dossier-là.
Ah oui, je pense que ses avocats vont avoir un boulevard, ils vont se friser les moustaches s'ils en ont.
Voilà, après, bon.
C'est pas très élégant, quoi, on va dire.
C'est pas très élégant, mais ça prouve qu'il y a eu aussi des.
Ça prouve que l'éthique, voilà. Il y a eu des inimitiés profondes et on a réglé les comptes.
C'est ça. Le fait que le Stade Toulousain ait été compétitif au plus haut niveau pendant quelques années contre le Stade Français, où Bernard Laporte était entraîneur, je pense que ça a créé des tensions entre les deux hommes, mais il y a une espèce peut-être de vengeance qui s'est mise en place.
Comme quoi le rugby et cette fameuse éthique dont on parle, c'est peut-être effectivement qu'une image d'Épinal.
C'est sur le terrain, pas en dehors.
Bon, alors passons à autre chose. Donc vous prenez votre retraite assez jeune finalement. Vous décidez brutalement de partir.
Assez jeune, oui, non. Bon, à l'âge de 35 ans.
Oui.
Enfin, à la fin de mes 34 plutôt. Et parce que disons que le corps a besoin de récupérer. Et j'ai senti aussi qu'il fallait passer à autre chose et que j'avais bien profité pendant ma carrière, que ce soit au Stade Toulousain, en équipe de France et avant avec Groyer et Colomiers. Donc voilà, décidé de tourner une page. C'était aussi une réflexion par rapport à l'orientation, à la réorientation et la reconversion de mon épouse. Donc voilà, je suis parti sur autre chose, sachant que j'avais quand même un bagage, puisque j'ai été diplômé de l'école d'ingénieurs de Purpan.
Oui, alors qui est une belle école, puisque les Purpanais ont une excellente réputation, donc c'est une école assez prestigieuse en matière d'agriculture, effectivement. Donc vous n'étiez pas parti sans rien. Et vous n'avez pas eu idée de revenir, parce que je crois que vos parents sont éleveurs.
Mes parents sont éleveurs pour dans le rayon de Roquefort, donc mes parents font du lait de brebis.
Oui.
Qu'il livre à la coopérative Sodial pour fabriquer du roquefort. Mais voilà, mon idée, ça a été de rester en contact avec ce milieu. Je pense être plus présent à l'avenir sur l'exploitation. Mes parents exploitent toujours. Et par rapport à, grâce à l'école du Purpan, voilà, j'ai forcément noué des relations avec des acteurs du milieu agricole et agroalimentaire. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé peut-être dans l'aventure de France Ginseng.
Alors voilà, France Ginseng, le mot est lâché, le ginseng. Alors le ginseng, tout le monde en parle. On ne sait pas vraiment d'ailleurs à quoi ça sert, mais aujourd'hui, on va avoir de la chance, vous allez nous l'expliquer. Alors qu'est-ce que c'est le ginseng ? C'est une racine ?
Le ginseng est une racine, donc considérée comme une plante médicinale, et que l'on retrouve effectivement dans les compléments alimentaires, principalement, associée souvent à d'autres plantes. Et on a décidé de faire la production, de lancer une filière française de ginseng, donc il y a 6 ans de ça, puisque cette plante en fait met 4 ans à pousser, enfin du moins au bout de 4 ans on arrive à ramasser des racines qui font à peu près 20 grammes.
Donc parce que si on ramasse la racine, ça veut dire que la plante elle est foutue, il faut en planter une autre.
Voilà.
Oui, donc il y a un turnover permanent.
Voilà. Il faut repartir sur un cycle de 4 ans. Et la deuxième barrière, contrainte, je dirais, par rapport à cette production, c'est qu'il faut de l'ombre, puisque c'est une plante naturelle de sous-bois. Donc pour la cultiver en plein champ, comme il se fait en Asie ou au Canada, il s'agit d'avoir des abris générant de l'ombre. Voilà pourquoi on s'est lancé sur cette production.
C'est quoi comme abri ? Parce qu'on voit beaucoup de serres dans la région, mais la serre, c'est justement pour concentrer la chaleur.
Oui, non, c'est pas du tout des serres. Avec du verre comme on va voir ou autre ou par côté. Donc là, c'est les abris, les structures métalliques avec des toits étanches dessus, notamment des panneaux photovoltaïques qu'on avait mis au début quand il y avait l'aubaine avec les panneaux photovoltaïques.
L'aubaine, c'est le mot, oui.
Voilà. Parce que ça permettait de faire les personnes qui finançaient les abris, qui n'étaient pas notre structure, permettaient de payer effectivement les abris, l'irrigation pour les agriculteurs et nous d'avoir une contribution financière à France Ginseng. Pouvoir travailler, quoi, pour pouvoir exploiter.
Alors le ginseng, donc 4 ans de production, c'est long. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On le regarde pousser ?
On le regarde pousser, on fait tout un tas d'expérimentations pour mieux connaître cette plante, savoir comment on pourrait arriver à avoir un peu plus de principes actifs, puisque en fait, cette plante se vend un peu à la concentration de principes actifs, qui sont les ginsénocides. Et donc voilà, on a mis en place tout un tas d'expérimentations, notamment avec l'école de Purpan, qui s'était d'ailleurs intéressée au sujet il y a de nombreuses années. D'autres coopératives du Sud-Ouest s'étaient intéressées il y a bien 20 ans, mais ne l'avaient pas mis en place. Et donc voilà, c'est une racine qui apporte beaucoup de vertus stimulantes, tonifiantes. Alors ne pas confondre avec le côté excitant, ce n'est pas un excitant, mais on va faire des traitements de fond sur 3 semaines, un mois, et sentir les effets, des fois au bout de quelques jours, mais sinon ça va être au bout d'une semaine ou 15 jours.
C'est véritablement, ça fonctionne. C'est pas une.
Si, ça fonctionne.
C'est pas un effet placebo.
Non. C'est, en fait, ça soutient, je dirais, le côté faible de l'organisme, puisque, bon, il y en a qui vont dire, mais je me sens mieux. Certains disent, j'ai les idées moins confuses. D'autres, je dors mieux. Et donc, ça fait un effet général, je dirais. Et c'est pour ça que c'est la quatrième plante la plus utilisée en Europe et l'une des premières utilisées dans le monde parce qu'on la retrouve souvent associée avec d'autres plantes aussi pour ses bienfaits.
Ouais. Vous avez planté combien de superficies ?
Là, en ce moment, on s'occupe de 13 hectares.
Ah oui, quand même.
L'objectif serait d'avoir au moins 50 hectares pour avoir une production significative en France, puisque bon, il n'y a pas de production en France avant nous, il n'y en avait pas. Mais par contre, il y a quand même 100 tonnes de consommées par an.
Qui viennent d'ailleurs.
Qui viennent d'ailleurs, de la part des labos. Et les laboratoires sont fortement intéressés pour acheter notre production parce qu'ils ils l'ont sous les yeux. Et puis, il y a une question de traçabilité, de problèmes aussi de résidus de pesticides qu'on arrive, nous, à gérer et qui est plus difficile peut-être quand on achète des produits venant de Chine pour des questions de rémanence de produits ou des méthodes de culture différentes.
Oui, déjà, on voit qu'au niveau du thé, certains thés, il faut être des plus vigilants.
Voilà.
Donc, on peut imaginer que sur le ginseng, c'est pareil. Alors, ces produits, vous avez déjà eu une récolte ?
Oui, on a eu au moins deux récoltes.
Alors, qu'est-ce que vous faites de la récolte ?
Alors,
vous transformez
la récolte,
vous-même ?
Voilà, on transforme une partie, donc on fait tout ce qui est séchage, broyage. Et après, s'il faut faire de la mise en gélule ou de la mise sous forme de pilule, ça, on le fait faire pour l'instant. Mais je pense qu'on assumera toute la transformation à terme. Sachant qu'on retrouve après les produits sous forme de poudre ou de gélule ou de... on va en trouver sous forme de thé aussi.
Donc, et vous les vendez à travers quel circuit commercial ?
Alors, on travaille, enfin, nos cibles sont principalement tous les thérapeutes, naturopathes, diététiciens, médecins généralistes.
Il y en a un qui aurait été ravi de vous entendre ce soir, puis il nous fait des émissions là-dessus.
D'accord.
C'est Jean-Paul Mira, mais je suis sûr qu'il va nous écouter.
Et tous les magasins spécialisés. Puis on a tous les centres de bien-être, les spas, les centres thermaux, enfin voilà quoi. Toutes les zones où on peut trouver des produits, je dirais haut de gamme à base de ginseng, puisqu'on ne va pas se destiner effectivement à vendre notre production en grande surface. Enfin, du moins pas pour l'instant. Je pense que la grande distribution évolue aussi. Ce sera peut-être des opportunités à venir. Mais
ça veut dire que ça reste un peu confidentiel pour l'instant ?
Ben, disons qu'on a des méthodes de production qui sont les plus propres possibles, puisqu'on fait du désherbage mécanique ou manuel. Du fait qu'on est des toits imperméables, qu'on gère l'irrigation comme il se doit, on a moins de problèmes fongiques qu'ailleurs. Et on fait beaucoup moins de traitements. On en fait entre 1 et 2 par an, au lieu de 15 à 20. Donc c'est vrai qu'on a une valeur ajoutée par rapport à ça, par rapport aux productions qui viennent de l'étranger. Et on est plutôt sur des gammes de prix entre 30 et 40 euros, plutôt qu'entre 25 et 30 euros pour la moyenne du marché, même si on trouve des produits aussi concurrents dans nos ordres de prix. Quoi, mais on est plutôt sur le produit haut de gamme. Ouais.
Alors les 13 hectares, ils se situent où ?
Alors 13 hectares, il y en a donc 3 à 6, c'est qui est notre site expérimental. 9 à Rion-des-Landes, qui est notre plus joli site, puisque c'est un site qui est où tout est d'un seul tenant. Les 9 hectares sont d'un seul tenant, avec du bardage de bois par côté. Enfin, quelque chose de cohérent au niveau de l'esthétique. Et après, on a un hectare à côté d'Orthez, qui est chez un ancien salarié de la société.
Il faut beaucoup de monde pour travailler le ginseng ?
Il faut de la main-d'œuvre pour le ramasser. Il faut de la main-d'œuvre aussi pour le désherbage de temps en temps, puisqu'on en fait manuellement. Après, je dirais que la culture en elle-même ne demande pas beaucoup d'intervention, mais c'est principalement au semis et à la récolte.
Parce que là, 4 ans, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une rotation de terre. Oui. Il y a celui qui produit, celui qui pousse, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait qu'il faut beaucoup, beaucoup de terre.
C'est ça, on a 13 hectares, mais après on gère cet espace pour en avoir tous les ans à la vente.
Oui.
Et ça nous permet d'avoir un peu des produits millésimés, parce qu'on a des racines bien sûr de 4 ans, mais aussi de 5 ans et de 6 ans pour faire des produits différents. Parce qu'il faut savoir qu'en Asie, des fois ces racines, par exemple, se vendent aux enchères très très chères. Elles se vendent à 15 000 euros, on peut en trouver, parce qu'elles ont, 10 ans.
Mais dites pas
ans,
ça, tout le monde va aller gratter vos champs. Voilà.
Mais il y a autour du ginseng en Asie, c'est assez fort, parce que des fois, il y en a qui le portent sur eux, dès que ça a une forme humaine vraiment poussée. Et c'est assez surprenant. Il y a des formes féminines, des formes masculines que l'on retrouve sur les racines du ginseng. Et c'est ce qui fait un peu la particularité de cette culture.
Elle est rentable, cette culture ?
C'est une culture, oui, qui peut apporter beaucoup de valeur ajoutée aux agriculteurs. C'est pour ça qu'on essaie de le mettre en avant et d'en faire profiter et justement d'essayer de créer une filière française.
Je vais en parler à mes agriculteurs du Lot pour voir. Alors nous avons Robin Galtier qui est avec nous, que vous connaissez puisqu'il anime et il produit la mission Oxyform. Romain, vous vouliez poser une question à notre invité ?
Oui, bonjour Yannick. Alors j'avais une question, moi c'était sur les compléments alimentaires. J'ai l'impression qu'en fait ça se démocratise, que depuis quelques années, que ce soit pour les sportifs, pour les personnes lambda, tout le monde se met à consommer par exemple de la spiruline, du ginseng. On dirait que les compléments alimentaires ne sont plus comme avant, où on se disait c'est chimique, les gens n'avaient pas la connaissance. On dirait que maintenant c'est quelque chose que l'on trouve partout, et notamment qui donne envie en fait.
Oui, mais on est, bon, c'est aussi poussé par toute la médiatisation qu'il y a autour de ces produits, médecine douce, etc. Et puis, c'est vrai que les sportifs, bon, avaient tendance à prendre notamment des protéines, mais effectivement, on est plus dans le chimique que dans le naturel. Mais on se rend bien compte qu'il y a quand même des effets néfastes aussi à terme, et que c'est important d'avoir un bon état général du corps, un bon équilibre, un bon fonctionnement. Pour la récupération, pour la préparation à l'effort. Et on essaie de travailler justement à base de ces produits-là, je pense, et à juste raison. D'ailleurs, on fait, nous, un produit pour sportifs ginseng spiruline, sous les conseils d'une médecin traditionnelle chinoise qui nous a dit bon, c'est très intéressant de retrouver ça, il y a une bonne complémentarité entre les deux. Puis pour les sportifs, oui, la spiruline apporte pas mal d'oligo-éléments, de minéraux. Donc je pense qu'en complément de ce que peuvent prendre les sportifs pour l'amélioration de la performance, je dirais, musculaire ou autre, ce genre de produits sont forcément intéressants. Ouais.
C'est intéressant pour la récupération des sportifs ?
Oui, pour la récupération, puis pour arriver à conserver une bonne efficacité des différents organes. Enfin, je ne sais pas si pour ceux dont la médecine traditionnelle chinoise intéresse, ça paraît cohérent d'essayer de conserver un équilibre. Et justement, l'avantage de nos produits, j'y pense maintenant à le dire, c'est qu'on ne fait pas d'extrait de ginseng, comme on peut trouver souvent, parce que les extraits de ginseng sont faits pour éliminer des fois d'autres produits qu'on ne veut pas avoir dans ce que l'on mange. Les extraits de ginseng isolent un principe actif. L'avantage là, quand on maîtrise une culture, c'est qu'on peut sécher, broyer la plante, enfin, la racine en entier et retrouver la totalité, donc retrouver un équilibre et pas forcément une molécule de synthèse, pas de synthèse dans l'occurrence, mais une molécule qu'on a isolée et qui peut avoir plus d'effets néfastes. Voilà.
Et ce côté made in France, ça doit rassurer le consommateur ?
Oui, ça rassure le consommateur, ça rassure aussi les acheteurs avec qui on peut travailler. Et c'est vrai que notre marque Jardin Occitanie, je pense, va un peu dans le sens des gens qui essaient de se faire aussi un coin jardin, un potager. Je crois que maintenant, de plus en plus de gens se retrouvent là-dedans parce qu'on est bien dans la mondialisation, dans la communication avec tout le monde, mais on aime aussi avoir son coin à soi, son petit jardin. Et voilà. Et puis, je crois que le nom de notre région est porteur, donc c'était intéressant de retrouver ça.
Oui, parce que Jardin d'Occitanie, bon, vous avez quand même donné l'empreinte de la région là.
Oui, c'est important parce que de mettre en avant la typicité de nos terroirs. Et volontairement, quand on fait des associations dans nos produits avec le ginseng, on travaille avec des producteurs de la région. On pourrait très bien acheter de l'Amérique du Sud ou autre, non, on essaie de le faire avec des productions locales.
Et beaucoup d'autres personnes pourraient travailler pour vous et vous fournir, par exemple, en racines.
Au niveau de la production, oui, on pourrait. On est en relation avec pas mal de. Alors, c'est pas évident à développer parce que, comme il y a des abris, il faut les permis de construire, etc. C'est pas si simple que ça. On ne décide pas du jour au lendemain comme on fait une culture de blé ou autre. Mais oui, bien sûr, on pourrait. On est en train d'organiser tout ça.
Alors, comme vous êtes un homme très éclectique, il y a le ginseng, mais il y a l'assurance aussi. Vous avez ouvert avec deux complices, je crois, si je puis dire. Hein. Vous avez créé un cabinet de courtiers en assurance qui s'appelle Excellium Assurance, c'est ça ?
Excellium Assurance. Donc depuis 2014, on a ce cabinet qui a été mis en place par quelqu'un qui vient du monde du courtage dans le milieu de la construction. Et une personne qui a fait du courtage pendant 40 ans auprès du groupe Marche, qui est le premier courtier mondial. Et donc, grâce à ces deux personnes, on a des bonnes relations avec les assureurs, ce qui est important pour proposer des solutions aux entreprises. Et c'est vrai que c'est très varié. Bon, moi, je n'ai pas fait une formation d'assurance, et du coup, j'ai commencé l'assurance par les activités que j'ai connues, à savoir le sport et le milieu agricole. Donc, je travaille pas mal avec les coopératives agricoles.
Oui,
avec
c'est déjà quand même pas mal hein, comme secteur. Voilà. Si vous assurez toutes les coopératives du coin, oui. C'est bon.
Mais ce n'est pas évident de rentrer dans les coopératives quand même. Et puis après, avec le monde sportif, avec les clubs de foot, clubs de rugby. parce que je connais les problématiques, donc c'est plus facile d'en parler. Voilà, parce qu'il y a, tout un des évolutions dans chaque domaine. Dans le milieu de l'assurance, ça évolue. On peut travailler maintenant avec toutes les données que l'on a à travers les stations Météo France, les relevés d'indices de température, de vent, etc., pour mettre en place des contrats d'assurance. Donc, il n'y a plus besoin d'expertise, je dirais. On se fie au relevé des stations météo, par exemple, sur une période qu'on a définie. Donc, voilà, j'essaie de développer des choses nouvelles parce que je n'ai pas suivi la formation classique de l'assurance, comme je n'ai pas suivi la formation classique sport-études et le rugby.
Oui, mais on a vu que ça avait donné de bons résultats, mais ne suivant pas. On imagine que sur l'assurance, ça pourrait se passer. Donc, c'est le cas. Vous êtes installé à Toulouse ?
On est installé donc à Blagnac, au sein du club Réussir. Et on intervient principalement dans la région, mais au niveau national, quand il y a des demandes. Voilà, donc on a créé un portefeuille. On n'a pas racheté le portefeuille, ce qui n'est pas évident au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a, d'une part, il y a de la concurrence. Et puis, on travaille plus facilement avec des gens que l'on connaît qu'avec des nouveaux acteurs. Mais on a fait notre trou et... voilà, comme tout nouveau, on a de l'ambition. On se place aussi sur des marchés qui sont peut-être moins exploités par le commun des mortels. Donc voilà, ça a bien prospéré jusqu'à présent, mais il faut le développer. Mais bon, on a des bons partenaires au niveau assureur et puis on se fait connaître petit à petit. Donc au fil du temps, je dirais que le portefeuille se consolide.
Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une reconversion réussie. Vous avez échappé au bar, ce qui est déjà pas mal,
oui.
pour revenir dans votre métier premier.
C'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein.
Oui, on en connaît un certain nombre, oui, mais c'est peut-être une reconversion un peu plus, comment dirais-je, un peu moins glorieuse. Hein. Voilà, il faut de tout, de toute façon. Bien, l'heure a sonné, ouais, je ne vous ai pas passé Francesco De Gregori, que c'est un chanteur italien que je voulais vous passer, que vous aviez choisi parce que votre femme est d'origine italienne, on a une pensée pour elle. Mais le temps nous est compté, nous arrivons à notre séquence littéraire et vous avez choisi de nous parler de deux livres. Alors vous avez dit, j'ai lu Les Millenniums il y a quelque temps, et d'ailleurs moi aussi parce que je les avais achetés puis je ne l'avais jamais lu. Ça vous a plu, Millenniums?
Oui, alors ça m'a plu, donc ça fait j'ai mis quelques temps parce que ça fait quelques années, mais non, ça m'avait plu, bon, par rapport à effectivement, au côté, je te tiens en haleine quand j'écris un livre et on a toujours envie de lire un petit peu plus, savoir ce qui va se passer, et puis aussi par rapport au personnage, la fameuse Lisbeth Salander, qui est un petit gabarit qui arrive à soulever des montagnes, je dirais, c'est aussi ça qui fait que ça m'a tenu en haleine.
Ah, c'est bien fait quand même. Hein. Bon, ouais. Il est mort sans voir, malheureusement, l'auteur, hein, vous le savez, il a porté son manuscrit, il est décédé un peu après.
C'est vrai.
Donc, il n'a pas connu, le succès très mérité hein, de ses livres, parce que c'est à la fois original, prenant, bien écrit. Et puis, vous êtes actuellement en train de lire aussi quelque chose qui se rapporte un peu plus directement à votre activité, qui est...
Oui, alors après, c'est vrai que je lis pas mal de livres en rapport à mon activité. Bon, là, en ce moment, c'est un livre qui s'appelle « L'agriculture naturelle », qui a été écrit par un Japonais. Je l'ai écrit, mais je ne saurais plus peut-être le dire. C'est Masanobu Fukuoka, je crois.
Oui, c'est ce que vous avez écrit sur l'affiche, donc vous avez une bonne mémoire en plus. Mais ça, c'est le ginseng, vous devez en prendre, vous en prenez.
Oui, mais en fait, moi, j'ai connu le ginseng quand j'étais sportif.
Ah, d'accord.
C'est pour ça que le projet m'a motivé, parce que ça me faisait effet. Mais donc Masanobu Fukuoka, lui, a mis en place ce qu'il appelle l'agriculture naturelle. C'est essayer de se rapprocher le plus à la nature pour cultiver et essayer d'avoir de la variété dans ces cultures et ne pas être dans la monoculture et pas dans l'agriculture conventionnelle. Quoi. Essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement du sol, des plantes, la relation entre les deux.
Alors, j'espère que ce n'est pas un Japonais qui est dans la banlieue de Fukushima.
Oui, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, mais c'est sûrement plus compliqué là-bas. Mais bon, voilà, c'est intéressant d'avoir des réflexions comme ça. Bon, c'est quelqu'un qui est connu à l'échelle internationale par rapport à tout ce qu'il a essayé de mettre en place. Ouais.
Alors, l'agriculture naturelle, mais moi, je ne me risquerai pas à redonner le nom que vous avez fort bien prononcé. Moi, je vais vous parler d'un autre livre. En réalité, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, c'est notre partenaire Nathalie Fontaine qui va parler par ma voix, la patronne de la belle librairie des Tours, qui est située à Naïoux et qui d'ailleurs nous prépare une émission sur les livres. Et elle m'a fait passer une petite note, donc je vous la lis. « L'odeur de la forêt », c'est le titre, « vient de sortir en poche ».
Et l'information est d'importance parce que la première édition parue en 2016 aux mêmes éditions Arléa était épuisée. Dans cette version, le premier quart de la couverture nous donne le titre et puis le prénom et le nom de l'auteur en lettres de couleur, Hélène Gestern. Le reste est un cliché en noir et blanc. Des soldats sont occupés à régler des appareils photographiques juchés sur des trépieds métalliques. Nous sommes en mars 1916. Je l'ai lu en 3 jours et 2 nuits, me dit une cliente. Et je reconnais là ce qui m'avait saisi à la lecture du premier roman d'Hélène Gestern, paru en 2011, qui s'appelait « Eux sur la photo ». Nous lisons « Toutes affaires cessantes » et comme aux éditions Arléa, on sait ce qu'éditer veut dire, à savoir rédiger aussi argumentaire 4e de couverture, voilà ce qu'on peut lire au dos du livre. Une correspondance incomplète, des clichés clandestins, un journal codé. Voilà les premières cartes du jeu de patience qui va mener Elisabeth Bauri, historienne de la photographie, et qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne le pensait. L'odeur de la forêt est une traversée de la perte à la recherche des histoires de disparus avalées par la guerre, la première puis la seconde guerre mondiale, le temps et le silence. Mais ce roman ample, prolifique, multiple, célèbre la farce inattendue de l'amour et de la mémoire, de la force, il va falloir que je mette mes lunettes, lorsqu'il s'agit d'éclairer le devenir de leurs traces, celles qui éclairent mais aussi dévorent les vivants. Elisabeth Bauri travaille pour l'Institut de la mémoire photographique du siècle. Alice de Chalandard lui demande d'expertiser un album de son oncle. J'avais entre les mains l'album d'un poilu qui avait envoyé pendant 2 ans et demi des cartes postales et des photographies qu'il avait lui-même prises de sa vie dans les tranchées. Il avait écrit aussi presque chaque semaine à sa sœur et à celui qui semble être son meilleur ami, Anatole Massis, un éminent poète post-symboliste. Ce fond est d'une valeur historique inestimable. L'odeur de la forêt est un roman fort, dense, très habilement construit et tissé. Si la mémoire, le deuil, la filiation, la trace sont des motifs récurrents, l'envergure du texte est à saluer, une émotion singulière à travers tout le livre, tenue jusqu'aux dernières pages et au-delà. J'en veux pour preuve le dernier texte intitulé « In Memoriam ». Voilà, c'est ce que nous dit Nathalie Fontaine de la librairie des Tours à Naïous, donc qui nous recommande apparemment très chaudement ce livre. Eh bien, nous sommes presque arrivés au bout de notre émission, de notre voyage dans la vie de Yannick Jauzion. Est-ce que vous avez un peu le temps de vivre avec tout ça? Parce que je sais qu'il y a une famille, 3 enfants, un tout petit qui vient d'arriver, les racines de ginseng, l'assurance, ça laisse un peu le temps de profiter de la vie?
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas volontairement continué dans le milieu du rugby, notamment sur des postes d'entraîneur ou autre, parce que je voulais me laisser le temps aussi d'en profiter familialement.
Ça vous aurait plu d'être entraîneur?
C'est prenant d'être entraîneur, mais je dirais que plus pour des jeunes par la passion de ce sport, le milieu professionnel c'est quand même compliqué, on est pris dans la compétition, et dans le résultat absolu. Mais après, j'imagine que c'est forcément prenant parce qu'il y a tellement à faire pour aller plus loin et essayer de gagner sans cesse. Mais c'est quand même contraignant en termes d'emploi du temps et je voulais absolument garder un peu de temps pour moi et pour ma famille.
Bon, mais écoutez, c'est un bon projet. Comment s'appelle le petit dernier?
Maël.
Donc Maël, c'est un, voilà. C'est un prénom breton, ça.
Prénom breton, hein, exactement. Oui.
Et les deux autres, allez, une pensée pour eux.
Et les deux autres, donc Lilian qui est l'aîné, qui a 8 ans, et Stella qui a 5 ans.
Alors Lilian, il va faire du rugby, il en fait déjà peut-être.
Il en fait à Montastruc. Ouais.
Bon, écoutez, peut-être un nouvel international en puissance.
Ouais, je sais pas, on verra.
On va voir, on va suivre ça de près. Merci Yannick Jauzion d'être venu au micro de Cap sur Esprit Occitanie. Merci Romain Galtier. Merci Jean-Louis Zac qui était aux manettes comme d'habitude. C'était Cap, une émission de Jacques Lavergne. La semaine prochaine, si tout va bien, nous parlerons de peinture avec un peintre toulousain, mais dont la réputation est allée bien plus loin que notre ville. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain, mardi à 11h et le week-end prochain. Qu'on se le dise, bonne semaine à toutes et à tous. Adieu. Thank you.